Les jésuites expulsés. Adieu la compagnie. La chaloté n'est pas le seul critique de la compagnie de Jésus. La vieille querelle entre l'esprit janséniste, frileux et figé, et son contraire, l'esprit jésuite, va connaître un épilogue qui fait l'objet d'une bombe en 1764. Les jésuites sont expulsés du royaume de France. C'est le duc de Choiseul qui est à l'origine de cette décision. Il l'a prise afin de s'acquérir la sympathie des parlements qui se méfient de ces jésuites banquiers, capables de les menacer dans leur sécurité foncière. Innocent de tout ce que les parlements disent contre eux, coupable de ce qu'ils ne disent pas, condamné à être lapidé avec les pierres de Port-Royal. Décodons un peu ce qu'écrit Voltaire. S'il accuse plaisamment la chaloté d'écrire avec un cure-dent trempé dans du vinaigre, lui, François-Marie Arouet, Arouet le Jeune, Arouet L.I., dont il a fait l'anagramme Voltaire, trempe son stylet dans l'acide. Coupable de ce qu'ils ne disent pas, les jésuites, sans doute. Ce qu'ils ne disent pas n'est guère avouable ou publiable. Il se trouve qu'ils sont devenus de véritables banquiers, des remplaçants en quelque sorte de l'ancien ordre des Templiers que Philippe IV le Bel détruisit. Les jésuites inspirent confiance, on leur confie de partout des sommes considérables. Habiles à gérer les biens dont ils sont dépositaires, ils accroissent de façon exponentielle leur richesse propre.
Choiseul exilé. Le duc de Choiseul, 1719-1785, bénéficie pendant 12 ans de la confiance totale du roi Louis XV. Il en devient en quelque sorte le premier ministre. Auteur d'une coûteuse réforme de l'armée, il prépare une éventuelle revanche contre l'Angleterre en s'alliant à l'Espagne, le traité de 1763 ayant ruiné l'empire colonial français. Il rend possible l'intervention de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Cherchant à plaire à tout le monde plutôt qu'à réformer, il pousse le roi à chasser les jésuites, au grand soulagement des parlements. Finalement, Louis XV disgracie et exile sur ses terres de Chanteloup son ministre plus courtisan qu'efficace et qu'il laissait gouverner les yeux fermés.
L'inconvénient, c'est que les jésuites sont des ultramontains, c'est-à-dire que leur autorité suprême se situe au-delà des monts, des montagnes, à Rome, puisque cette autorité, c'est le pape. Insupportable pour le Parlement, qui est plutôt janséniste et gallican, de Gallus, gaulois. L'adjectif gallican signifiant que l'Église catholique de France s'estime indépendante de l'autorité du pape, qui ne peut s'empêcher de fouiller dans la poche des propriétaires fonciers afin d'y trouver quelque monnaie, quelque impôt. Louis XIV, champion de la chrétienté, avait anéanti Port-Royal et sa petite Pimbèche. Le Parlement, sous Louis XV, réhabilite l'esprit janséniste, un esprit qui préfère l'immobilisme, garantissant les avantages acquis, plutôt que l'imagination et les initiatives jésuitiques échappant à leur contrôle. L'occasion de réduire à néant l'ordre des jésuites en France va être offerte au Parlement par un jésuite. En effet, parce que l'un des leurs, le père de Lavalette, a fait de mauvaises affaires et que sa victime le traduit en justice, le représentant du général des jésuites en France, le père de Sacy, fit appel au Parlement pour le défendre. Il comptait sur la fidélité d'anciens élèves. Certes, les anciens élèves des jésuites ne manquaient pas au Parlement, mais ils avaient été tellement bien éduqués par les pères eux-mêmes à une certaine fourberie, à la reconnaissance toute relative des bienfaits reçus, qu'ils votèrent en masse l'expulsion de la congrégation. En novembre 1764, après de nombreuses péripéties judiciaires, un édit royal confirme la suppression de la Compagnie de Jésus en France. Les jésuites sont dépossédés de tous leurs biens et expulsés.
Les fabuleuses récoltes des fermiers. Comment conserver la viande quand il n'y a pas de réfrigérateur? Eh bien, on la met dans de grands récipients de terre cuite bourrés de sel, qu'on appelle à l'époque des charniers. Indispensable le sel, si on veut subsister jusqu'à la saison nouvelle. C'est justement cette denrée dont l'État s'est réservé la vente exclusive, Le sel est devenu depuis longtemps un impôt qui porte le nom de gabelle. Un impôt injuste, car toutes les provinces n'y sont pas soumises de la même façon. Il y en a même qui en sont dispensées. Cela alimente une contrebande très active. Les faux sauniers passent avant les vrais, les gabelous. La perception de la gabelle et d'autres impôts est confiée depuis Colbert aux fermiers généraux, les ancêtres des percepteurs, qui, en 1726, sont regroupés sous la forme d'une association de 40 fermiers établie à Paris. Cette association comporte 42 directions provinciales qui rémunèrent plusieurs milliers de personnes. Le principe est simple, les fermiers généraux versent au roi la somme qui leur a été demandée, contrat établi sous la forme d'un affermage, d'un bail, de firmus, en latin convenu, et récupèrent ensuite cette imposition auprès des particuliers. Évidemment, ils profitent de la situation. À la veille de la Révolution, ils versent 40 millions de livres au roi et en prélèvent 140 millions. Leur fortune dépasse l'imagination.